c'est mercredi dans le monde.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, la première escale sonore d'un jour dans le monde vous fait visiter un musée tout neuf. Il était au Cap, en Afrique du Sud. Il montre de l'art contemporain. Il se veut, il se proclame le MoMA africain. Et son inauguration a été un événement, je vais vous y emmener. 18h40, nous sommes chez Donald Trump pour l'actu en série. Trump, saison 2, une semaine à oublier pour le président américain qui a été d'échec en échec. Je vous emmène aussi voir des Warhol et une soixantaine d'œuvres inédites pour une exposition pop art que nous fera visiter Corinne Pellissier. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger, le mariage gay en Australie, dernier grand pays à dire oui. Mais par courrier, je vous laisse découvrir ça dans un instant. Et avant cela, nous allons en Chine, où les préparatifs du 19e congrès du parti ont déjà commencé. Savez-vous comment on le sent? Eh bien, on n'arrive plus à se connecter, par exemple, sur Snapchat. Allez, à tout de suite.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Et nous y voilà donc, ça nous met bien dans l'ambiance, hein, cette Chine, quand la censure, donc je le disais, commence à se faire sentir plus encore qu'à l'ordinaire, quand les messageries se bloquent, c'est signe que quelque chose est en train de se passer. En Chine, en l'occurrence, ce serrage de vis annonce le 19e congrès du Parti communiste qui se tient dans le courant du mois, et le pays s'y prépare déjà. On va vous montrer comment, on va vous faire entendre d'ailleurs tout à l'heure avec Dominique André à quoi ça peut ressembler. Il se passe des choses, en tout cas derrière des portes souvent closes d'un congrès du Parti communiste chinois, et celui-ci aura de lourds défis. Bonsoir Jacques Gravro.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur et directeur d'HEC Eurasia. Vous avez notamment écrit « La Chine conquérante, enquête sur une étrange surpuissance » et c'est publié chez Erol. Pas beaucoup de suspense en soi, évidemment, sur le personnage Xi Jinping qui va repartir probablement pour un autre mandat, mais pas probablement d'ailleurs, très sûrement. Mais un congrès, ce sont des nouvelles têtes aussi. Est-ce qu'on peut imaginer un renouvellement à ses côtés? Est-ce qu'il faudra observer ça de près? Est-ce que ça nous enseignera des choses, hein?
Alors on va tous observer ça de près à partir du 18 octobre. Évidemment, il n'y a qu'une seule tête, c'est celle de Xi Jinping. Dans le bon vieux temps, on avait une fiction de parti avec une direction collective, mais toutes les factions ont été amenées à récipiscence par Xi Jinping. Donc la question est, est-ce que Xi Jinping va en reprendre pour 5 ans, ça c'est sûr. Pour 10 ans, mais pour 15 ans, etc. etc. Parce que la jurisprudence qui s'était créée depuis 20 ans où on faisait deux mandats, c'est une coutume tout à fait récente qui n'était pas du tout inscrite dans le marbre d'ailleurs.
Il y a même une limite d'âge à 68 ans normalement qu'il aura atteint à la fin des 5 premières années normalement. Alors, des 5 prochaines années, pardon.
Oui, enfin, il a aujourd'hui très exactement 64 ans, donc il est encore bon. Cette limite de 68 ans, on va l'appliquer finalement aux gens dont il n'a plus besoin, c'est-à-dire sur 7 membres du comité permanent du Politburo qu'on appelle les 7 immortels. Il y en a 5 de toute façon qui sont touchés par la limite d'âge, 2 dont lui n'est pas touché par la limite d'âge. Mais ça, ça peut tout à fait changer cette histoire.
Mais alors Jacques Gravro, comment il fait dans ces cas-là, Xi Jinping, s'il veut rester? Est-ce qu'il fait une poutine? Passez-moi l'expression. Donc il trouve une espèce d'artifice pour pouvoir se maintenir, ou est-ce qu'il fait changer les lois et il décide que désormais il n'y a plus les deux mandats traditionnels?
D'abord, il n'y a pas de loi. On n'est pas, on n'est pas en Russie, donc le système où on alterne le Premier ministre et le Président, ça ne fonctionne pas en Chine. Le 18 octobre, il va se passer le congrès du Parti communiste chinois. Ce n'est pas le gouvernement chinois. Mmh. Le Parti communiste chinois, c'est une PME de 88 millions de membres dans lequel, au sommet, on retrouve les grands chefs. Peu importe les scénarios, si vous voulez. Deng Xiaoping, qui est le mentor de tout le monde, qui a régné dans les années 80, lui n'avait absolument aucun titre. Il n'était même pas secrétaire général du parti, donc ça n'empêche pas de diriger derrière le paravent.
On dit que Xi Jinping, et vous êtes en train de le confirmer, est le plus puissant depuis Mao. Est-ce que c'est comme ça que vous le diriez, vous aussi, ou pas?
Ah oui. Alors, le plus puissant depuis Mao et depuis Deng Xiaoping, parce que Deng Xiaoping, dans les années 80, bien qu'il n'ait eu aucun titre officiel, il était quand même le patron. Là, Xi Jinping est le patron. Il ne partage pas le pouvoir comme avaient fait ses prédécesseurs Hu Jintao et Jiang Zemin. Donc, c'est lui qui guide les choses. de façon absolument claire. C'est lui qui a mené toutes les politiques d'affirmation de puissance de la Chine, de répression à l'intérieur, en particulier de l'internet, mais pas seulement.
Bah, on va y venir, ouais.
Mais il a aussi à son crédit d'avoir maintenu la Chine sur les rails, puisque l'économie chinoise enregistre 6,5 de taux de croissance.
Mais on dit même, et c'est peut-être ça aussi qu'il rapproche de Mao, vous allez me dire si je me trompe, qu'il y a une sorte de culte de la personnalité autour de ce personnage-là, en fait, quelque chose d'un peu particulier.
Oui, alors Mao, c'était le dieu le père, c'était le fondateur. Il y a eu un culte de la personnalité, certes, effrayant, mais enfin, donc ça peut pas se comparer, bien sûr. On est dans un monde ouvert maintenant. En Chine, il y a 130 millions de Chinois qui voyagent à l'étranger, tout de même. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un gentil culte de la personnalité. Il y a des affiches, etc. Et puis dans le bon peuple, on l'aime bien finalement. On l'appelle Xi Dada, ce qui veut dire oncle Xi. Et puis Peng Mama, qui est sa femme, la chanteuse glamour, on l'appelle tante aussi, donc dans le petit peuple ça fonctionne bien.
Vous disiez tout à l'heure qu'il avait tout organisé autour de lui, et même peut-être fait le ménage autour de lui quand il a fait son et qui n'est pas fini d'ailleurs, son opération anticorruption. Alors vous l'avez rappelé, hein, il y a beaucoup de monde en Chine, et beaucoup de monde a fortiori membre du Parti communiste, mais il paraît qu'il y a plus d'un million de personnes qui ont été sanctionnées. Est-ce que c'était aussi une manière de faire le vide autour de lui que cette opération-là?
Oui, alors tous les dirigeants chinois, quand ils ont pris le pouvoir, que ce soit son prédécesseur ou son antépénultième prédécesseur, ils ont fait une campagne anti-corruption qui a duré 6 mois. C'est une manière de se débarrasser des gens qu'on n'aime pas. Xi Jinping, ça dure depuis 5 ans. Donc c'est quand même lourd. Alors, sous le couvert de lutte anticorruption, il y a évidemment des tas de gens qui se sont fait prendre la main dans le sac. Mais je vous rassure, ça continue. Enfin, il continue à y avoir un certain nombre d'exactions. Il s'est débarrassé, bien entendu, des gens qui lui convenaient pas. Il a réduit à néant les bases de pouvoir très lourdes de son prédécesseur, qui était la Ligue de la Jeunesse chinoise. Sous cette campagne anticorruption, si vous prenez 1 million de personnes qui ont été purgées, pas toutes mises en prison, hein, mais purgées, sur 88 millions, ça fait un pourcentage relativement faible. Enfin, certes, il reste du monde.
Certes. Vous parliez d'Internet tout à l'heure et de sa manière de serrer la vis. Je disais en introduction que l'annonce d'un congrès, en général, c'est le signe d'une intensification, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait trop de choses qui sortent. Je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent ce que ça veut dire réellement quand s'approche le 19e congrès. Vous le disiez, on est à quelques jours seulement, trois petites semaines. Voici ce que ça donne avec Dominique André, qui est la correspondante de France Inter. On est parti.
Après Facebook, Google, Twitter, YouTube, a acquis le tour d'être interdit en Chine. Depuis plus d'une semaine, Sun, jeune homme de 21 ans, a bien des soucis avec WhatsApp, l'application internationale qui monte en Chine et dans le collimateur des autorités.
Je m'informe sur des sujets sensibles sur la Chine. Oui, j'ai bien senti que ça bloquait. C'est bientôt le 19e congrès et la fête nationale. C'est sévère depuis une semaine. WhatsApp, c'est une appli pour le monde entier et pas juste pour la Chine. Les gens peuvent apprendre et communiquer dans d'autres langues.
WhatsApp n'a jamais eu d'interdiction totale jusque-là, mais son système de cryptage qui protège les utilisateurs ne plaît pas au gouvernement, et c'est bien pour ça que Yin en est fan.
WhatsApp, c'est mieux que WeChat, son équivalent chinois. J'ai deux téléphones avec WhatsApp, c'est mieux protégé que WeChat. Sur mon vieux téléphone, c'est bloqué totalement en ce moment. Sur le nouveau, j'arrive à envoyer des messages, mais il faut essayer plusieurs fois. Ça n'est pas facile. Beaucoup de choses ne passent pas. Et quand c'est envoyé, elles sont supprimées rapidement.
Le grand nettoyage a commencé il y a déjà quelques semaines. Weibo, le Twitter chinois, pourtant très encadré, a subi de lourdes amendes pour ne pas avoir assez censuré ses usagers. Des comptes jugés trop critiques envers le gouvernement ont été fermés sur WeChat, la messagerie la plus populaire en Chine, qui est utilisée par des centaines de millions de personnes. Gao a 21 ans, c'est une étudiante assez sage qui ne cherche pas à aller sur les sites sensibles. Elle veut juste pouvoir travailler, ce qui n'est pas du tout évident à comprendre pour des autorités paranoïaques.
Je n'utilise que WeChat, comme tous mes amis. Je n'ai pas de logiciels étrangers pour le moment. Les VPN, pour contourner la censure, c'est ennuyeux à utiliser. Et les bons VPN, ça coûte cher.
encadré par une grande muraille électronique qui bloque tout ce qui est considéré comme sensible par le gouvernement chinois. L'Internet subit donc un nouveau tour de vis. Le Congrès rend les autorités très nerveuses.
Et c'est Dominique André, donc à Pékin, Jacques Gravreau, de ce côté-là, aucun progrès et aucun progrès à espérer ou pas ?
Ah ben, rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on parle de WhatsApp maintenant, mais Google est interdit, Gmail est interdit, Facebook est interdit, Twitter est interdit, etc. etc. Donc même avec les VPN, maintenant il y a eu un serrage de vis, ça ne marche plus.
Mais est-ce que quand même certaines entreprises étrangères qui s'installent commencent à porter le poids de ce point de vue-là en disant « oui, c'est pas très facile pour nous » et du coup d'ailleurs renoncent à s'installer en Chine pour préférer Hong Kong. Est-ce que ça arrive, on le voit, ou c'est très marginal ?
Non, on fait avec. Je veux dire, vous êtes dans un pays, vous fonctionnez comme le pays fonctionne. Alors évidemment, quand on est à Hong Kong, on a la liberté complète, mais les entreprises s'adaptent parfaitement. Vous savez, moi, j'ai pas de WhatsApp en Chine, mais j'ai WeChat qui s'appelle Weixin en chinois.
Ce qu'on a entendu à l'instant.
Sur mon téléphone chinois et ça marche très bien.
Alors, Jacques Gravreau, on n'aura pas le temps de tout évoquer, mais heureusement, le congrès arrive et on pourra se reparler sur cette question. Il y a quand même une chose qui me tarabuste. La Chine affiche toujours une croissance insolente autour de 7%, dont on sait qu'elle est sûrement inférieure, mais voilà le chiffre qu'il nous donne. Il y a quand même une dette qui est extrêmement lourde. Est-ce qu'il existe quand même un vrai risque de ralentissement de la croissance, là, pour les 5 ans qui attendent Xi Jinping, donc des licenciements, donc une potentielle instabilité sociale. Est-ce que tout ça, ça existe vraiment et c'est un vrai risque pour la Chine à venir ou pas ?
Oui, alors si les économistes faisaient des prévisions fiables, ça se saurait. La croissance de 6,5% dans les années qui viennent, c'est possible, c'est faisable. Il y a en effet une dette considérable qui a augmenté. On va pas utiliser trop de chiffres, mais la dette, les crédits, c'était 100% de l'économie il y a 10 ans, c'est 260% aujourd'hui, donc c'est absolument monstrueux.
Mais du coup, le risque, si cette croissance baisse, est-ce qu'il existe vraiment, celui de licenciement, celui d'une paix sociale, on va dire, qui sera un peu plus difficile à gérer pour lui?
Les licenciements ont déjà eu lieu, puisque dans les grosses entreprises d'État où l'acier a été sinistré, pourquoi? Parce qu'ils étaient en surcapacité. Je veux dire, la Chine produit 600 millions de tonnes d'acier, le deuxième mondial produit 100 millions de tonnes, donc c'était monstrueux. Donc, dans le charbon, le ciment, l'acier, etc., il y a eu des millions de licenciements. Mais encore une fois, on est en Chine, c'est-à-dire qu'on multiplie tout par des chiffres absolument monstrueux. Donc ça, il y a des restructurations énormes en cours à l'échelle de la Chine. Maintenant, sur votre question, y a-t-il un risque financier ? Il peut y avoir absolument un risque financier d'une étincelle qui éclate, probablement pas dans le système des banques d'État, mais dans tout le système de ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire des banques absolument dérégulées, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans.
Est-ce que c'est pour ça qu'on serre la vis, par exemple, des entreprises qui investissent trop à l'étranger, d'une certaine façon, parce que les capitaux sont en train de quitter le pays
dangereux. Ça n'a rien à voir. Les entreprises qui ont investi à l'étranger, je prends un exemple, c'est Wanda qui était un magnat de l'immobilier qui a investi tant et plus. On l'a serré la vis parce que c'était de la fuite des capitaux caractérisée. Donc ils ont fait joujou avec le cours du yuan et ça n'a absolument rien à voir.
Et on sera content de vous réinviter, Jacques Gravreau, quand arrivera cette date du 18 octobre, qu'on arrivera doucement donc vers ce moment, qui est un moment évidemment très important pour la Chine et aussi son président. Je rappelle que votre livre, tiens, je le montre, si vous nous regardez sur Internet, La Chine conquérante, enquête sur une étrange surpuissance, et c'est publié chez...
Superpuissance,
qu'est-ce que j'ai dit ?
Surpuissance.
Oui, voilà, c'est déjà ça, et c'est publié chez Erol. Merci beaucoup.
Merci. France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde nous emmène visiter le plus grand musée d'Afrique. Le feuilleton, c'est Trump, saison 2. Grégory Philips, bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Et revers sur revers pour Trump cette semaine, Grégory.
Ah oui, quand ça veut pas, très mauvaise semaine pour Trump.
Et on voit ça ensemble dans un instant. Et puis tiens, puisqu'on est très musée aujourd'hui, profitons-en. Je vous emmène aussi voir des Warhol et plus encore dans une exposition pop art. Et ce sera avec vous, Corinne Pellissier.
Oui, on va faire des pop, des bop, des whiz avec des œuvres qu'on n'a jamais vues en France pour nous éclairer sur l'Amérique des années 60 et un petit peu aussi sur celle d'aujourd'hui.
Allez, à tout de suite. Asaf Abidan, My Old Pain sur France Inter.
I'm in love again. my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what you know of me.
Allez, Asaf Abidan, voilà, cette fois-ci c'est beaucoup mieux dit. My Old Pain.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Desservi pour une fois.
60 minutes.
Et Florence Paracolos qui revient tous les jours dans Un jour dans le monde, rattrapée au vol l'actu internationale qui nous a échappé sous les radars, commence ce soir par le dinar algérien. Florence, qui est au plus bas, à l'image d'ailleurs de la situation économique en Algérie.
Et le dernier symptôme de cette crise se mesure sur une place d'Alger, le Square Port Saïd, un marché d'échange à ciel ouvert. Les billets passent de main en main et là-bas l'euro vient de passer la barre symbolique des 200 dinars. Les acheteurs se ruent sur la monnaie européenne depuis que le gouvernement a annoncé qu'il allait faire tourner la planche à billets, autrement dit créer de l'argent pour faire face à une situation catastrophique. Là, c'est le Premier ministre Ahmed Ouaïha qui parle, c'était lundi devant l'Assemblée. Il dit que sans l'intervention de la Banque centrale algérienne, l'État ne pourra pas payer les fonctionnaires au mois de novembre. Un arrêt brutal de l'économie nationale. Il enfonce le clou en français parce que, dit-il aussi, la situation des comptes publics est infernale. Depuis la chute des cours du pétrole en 2014, le pays a perdu le moteur de son économie. Le déficit budgétaire est presque à 14%. Je vous rappelle qu'en Europe, on essaie de le limiter à 3%. La monnaie a déjà été dévaluée d'un tiers de sa valeur il y a 2 ans. Et le gouvernement a raclé tous les fonds de tiroir pour se maintenir à flot. C'est donc la dernière cartouche qui est utilisée pour éviter la faillite de l'État, avec les risques qu'elle comporte, Fabienne, car qui dit planche à billets dit souvent inflation. Les prix sont déjà en hausse de 7% et ce ne pourrait être qu'un début. Un ancien Premier ministre prédit une inflation à 4 chiffres. Quelles en seraient les conséquences politiques? Ça, c'est la question d'après.
Et direction l'Ouganda maintenant.
Là, nous sommes au Parlement ougandais avec les élus de l'opposition, bandeau rouge sur la tête, en signe de contestation. Hier, ils se sont mis à entonner l'hymne national contre la suppression de la limite d'âge pour être élu président. Parce qu'en Ouganda, le parti au pouvoir essaye de modifier la constitution pour permettre au président Museveni, 73 ans, de se représenter en 2021 pour briguer un 6e mandat. Alors la séance d'hier à l'Assemblée, qui est un copier-coller de la Chambre des communes britannique, dont l'Ouganda était un protectorat, cette séance plutôt bon enfant a viré à la bagarre générale après qu'un député de l'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé et d'avoir apporté un pistolet, coup de poing, chaise qui vole. À l'image de la tension qui règne dans le pays depuis l'annonce du pouvoir, des manifestations la semaine dernière ont dégénéré, des opposants ont été arrêtés, un leader étudiant dit avoir été torturé, il dénonce la monarchie présidentielle de Museveni au pouvoir depuis 1986. Il a déjà réussi à faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats. Si la limite des 75 ans est levée, il pourra dépasser les 35 ans de présidence.
Et puis Florence, dans la série Études improbables, les conclusions hâtives alors?
Eh ben, des chercheurs de l'université de New York et des journalistes qui les suivent trop rapidement, qui ont repris un fait et fait très fort. Les scientifiques en question sont mis en tête de déterminer les préférences musicales des psychopathes. Et ils ont laissé fuiter des résultats.
Pour voir du
préliminaires non publiés, bah, comme beaucoup de chercheurs. Hein.
Non, mais enfin non.
Pour publier, je pense qu'il faut parfois choquer un peu.
Bref. Allez-y, donc on
ils ont laissé fuiter des résultats préliminaires non publiés, on comprend pourquoi, sur la foi d'un échantillon de 200 personnes, seulement après un test psychologique des candidats. Cette étude a été révélée par Le Guardian, et ça donne ça, Fabienne. Alors, Fabienne, musique de psychopathe
j'ai
ou pas ?
J'ai envie de dire non, parce que j'aime bien, moi, si vous voulez.
Ah bah écoutez, vous êtes dans le bon camp, effectivement. Vous n'êtes pas classé parmi les psychopathes, en tout cas d'après les études préliminaires, l'étude préliminaire de ces chercheurs. En revanche, ça... qui serait plutôt mon truc. Eh bah ça, c'est classé psychopathe. Donc choisis ton camp, camarade. Et voilà. Et c'est le début, évidemment. Et ces chercheurs précisent que c'est tout début. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas publié cette étude. Et ils vont continuer à essayer de chercher s'il y a corrélation entre choix musicaux et psychopathie.
Et s'il y a assez de psychopathes pour faire l'étude aussi. Parce que là, 200 personnes. Merci, Florence. Allez, à demain.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, et précisément au Cap, qui vient d'inaugurer son musée d'art contemporain. Il s'appelle le Zaid Smoka, j'espère que je le prononce correctement. Un musée privé, pile sur le front de mer, donc prêt à attirer des milliers de personnes, des milliers de touristes, hein, 21 millions par an quand même. Le financement, justement, tiens, c'est là, c'est le front de mer. Et puis c'est l'homme d'affaires allemand, Joachim Zaid, qui est l'ancien PDG de Puma. Bonsoir à vous, Lisa Fabian.
Bonsoir.
Lisa, ce musée s'est autoproclamé déjà le plus grand musée d'Afrique. Il se veut l'équivalent du MoMA de New York, de la Tate Gallery de Londres, et vous nous y emmenez. On vous suit, Lisa.
Oui, le projet est impressionnant. Le musée Zaid Smoka est installé dans un ancien silo à grains construit au début du XXe siècle sur les docks du Cap. Ce bâtiment de 57 mètres a été entièrement réhabilité par l'architecte britannique Thomas Heatherwick pour un coût de plus de 31 millions d'euros. L'architecte londonien a notamment dessiné la très belle nef de ce musée, découpée dans les tubes de béton qui composent la structure du bâtiment.
Ces 20 dernières années, il y a eu de très nombreux succès dans l'utilisation de l'art contemporain comme moteur du développement urbain. C'est presque comme s'il était impossible d'être une ville qui compte aujourd'hui sans un musée d'art contemporain.
Désormais, ce mastodonte de béton et de verre accueille sur 9 étages et 6000 mètres carrés la collection assemblée au fil des années par l'allemand Jochen Zaitz. L'homme est une légende des affaires, c'est aussi le plus grand collectionneur d'art contemporain africain au monde.
Je suis devenu collectionneur dans un but précis. Il y a 10 ans, nous avons eu l'idée de constituer une collection centrée sur l'art contemporain africain, réunissant des œuvres du XXIe siècle avec l'idée de l'établir quelque part en Afrique. Cette collection ne parle pas de moi, de mes goûts ou de ce que j'aime. C'est vraiment une collection qui a été construite avec le souci d'être le plus représentatif possible du continent africain et de sa diaspora.
Les plus célèbres artistes du continent sont présents au sein de ce musée unique où l'on retrouve de nombreuses œuvres exposées à l'international ces dernières années. En effet, l'art contemporain issu du continent africain a de plus en plus de succès à l'étranger. C'est ce que constate notamment en France Serge Lasvigne, le président du Centre Pompidou, qui était de passage au Cap pour l'ouverture du musée.
Ce que je crois, c'est deux choses. Premièrement, qu'il y a une sorte d'effet retard, c'est-à-dire que la France a mis du temps avant de réaliser ce que c'était que la création contemporaine en Afrique. La France vivait toujours dans l'idée que l'art africain, c'était cet art traditionnel. Et là, tout à coup, il y a eu une sorte de véritable éveil. L'Afrique est particulièrement apte aujourd'hui à traduire sous une forme artistique les grandes inquiétudes contemporaines. La perte d'identité, les discriminations, les sentiments de culpabilité, le multiculturalisme, les changements de sexe, toutes ces questions-là, sont des questions que les artistes africains, spécialement en Afrique du Sud, savent très bien exprimer, donner une traduction artistique.
Mais cette fois, c'est le public africain qui pourra profiter des œuvres produites sur le continent. Une satisfaction pour l'artiste et activiste Zanele Mouoli, connu pour ses autoportraits et ses portraits de lesbiennes sud-africaines.
Mon travail a été exposé un peu partout dans le monde, mais cette fois, je suis chez moi. Et je vais m'assurer que les œuvres qui sont exposées ici puissent être vues par le plus grand nombre. Des locaux qui ne savaient peut-être pas que ce travail existait. C'est vraiment un très grand honneur.
Et alors Lisa, l'entrée du musée était gratuite, hein, tout ce week-end pour l'inauguration. Est-ce que le public était là?
Une foule compacte est venue assister à l'inauguration en grande pompe du Zaitz Moka vendredi dernier. Le nouveau musée d'art contemporain a même reçu la bénédiction de l'archevêque Desmond Tutu, dont les apparitions sont pourtant rarissimes.
Thank you for getting us all of these wonderful things for this museum.
Une fois les portes ouvertes, la foule a pu découvrir l'atrium et les galeries. Grace, une jeune Sud-Africaine, était venue avec sa mère.
Ma mère est venue me rendre visite. Elle est de Soweto, donc elle ne vient presque jamais au Cap. Et je ne crois pas qu'elle ait jamais eu l'opportunité de voir un endroit comme celui-ci. En fait, je ne pense pas qu'en grandissant dans ce pays, elle aurait cru voir quelque chose comme ça un jour. Il y a un vrai sentiment de fierté quand on pense à tout ce qu'on a surmonté depuis l'avènement de la démocratie pour pouvoir magnifier nos villes et créer des espaces d'unité comme celui-ci. These spaces that unite people.
Étage, Rivka, une touriste londonienne, profite de la vue panoramique sur le port du Cap et la montagne de la Table.
Honnêtement, jusque-là, j'ai été vraiment très surprise. L'installation vidéo qu'on a pu voir à l'entrée était absolument magnifique. Pareil pour le jardin des sculptures. C'est une expérience surprenante et c'est très bien. Je crois que j'avais une image un peu préconçue de ce qu'est l'art africain et cela a remis en cause ces stéréotypes.
Dans une des salles, on croise Fanny Jason, l'un des premiers photojournalistes noirs d'Afrique du Sud. Il se dit impressionné, mais exprime tout de même un regret.
J'aimerais tellement voir le gouvernement investir lui-même dans de belles institutions comme celle-ci. Ce qui est assez unique, c'est que nous avons vraiment de très bons artistes en Afrique du Sud. Mais nous n'avons même pas un musée public correct à Soweto.
Il est vrai que l'ouverture du musée ne va pas sans controverse. Son financement privé, le choix de son emplacement ont nourri les critiques. Et il reste à savoir si le Zaitz Moka parviendra à attirer au-delà des touristes et des Sud-Africains les plus aisés.
Et merci beaucoup Lisa Fabian pour cette visite. Tiens, je vous l'offre, on reste un peu en Afrique du Sud. Le groupe s'appelle BCUC, il est d'ailleurs en tournée en France en ce moment. Yinde pour le titre.
There was music with drums and everything. And then these cats came through. They called themselves BCUC. They came with a brand new style and a brand new swag from the woods, y'all. Attack, 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 attack.
Voilà, le groupe sud-africain s'appelle BCUC Yinde.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le mercredi, c'est Trump, saison 2, et c'est vous, Grégory Phillips, qui suivez le président d'un déplacement à un tweet. Et Grégory, on peut dire que ça a été une très très mauvaise semaine pour Donald Trump. Hein.
Ah oui, vous avez raison, bad week pour Trump, abrogation d'Obamacare, pas possible, pas de majorité au Sénat, on va y revenir, primaire républicaine hier en Alabama et le candidat soutenu par le président était défait. Au milieu de tout ça, la polémique avec les footballeurs de la NFL, on en a beaucoup parlé sur Inter, la Corée du Nord et puis la situation dans l'île de Porto Rico, qui vous le savez a été dévastée il y a une semaine, jour pour jour, par l'ouragan Maria. Début de polémique ici, car même chez certains républicains, on trouve que l'administration de Trump a mis trop de temps à réagir, le président ira sur place mardi prochain.
Alors n'en jetez plus, on va prendre les choses l'une après l'autre et choisir les gros morceaux, si je puis dire. On commence avec l'Obamacare, donc le fameux Obamacare que Trump voulait changer, l'assurance santé oui. réformée par Obama. Les républicains sont divisés, ça on le savait, Trump s'est déjà cassé le nez, et puis une fois de plus, donc pas de majorité au Sénat. Elle a donc du plomb dans l'aile, cette promesse de campagne du président américain, Grégory.
Oui, parce que le projet qui devait remplacer Obamacare ne sera même pas présenté aux sénateurs, car on sait déjà que les républicains sont divisés et que le texte n'obtiendra pas la majorité. Alors le débat sur le système de santé ici est vif, très vif, vous vous en doutez. Vous savez que dans les émissions du soir, les Late Show, il y en a un que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé, c'est Jimmy Kimmel sur ABC. Et l'animateur télé s'est retrouvé à défendre Obamacare à la télévision à plusieurs reprises. Pourquoi ? Eh bien parce que son petit garçon est né avec une malformation cardiaque. Et donc dans ses émissions, Kimmel a pris fait et cause pour le maintien de ce système. Écoutez ça, c'était il y a une dizaine de jours.
Allez-y. Et je n'aurais jamais pensé devoir m'investir dans un débat comme celui-là. Moi, mon domaine d'expertise, c'est manger des pizzas, ça va pas plus loin. Mais on ne peut pas les laisser faire ça à nos enfants, nos personnes âgées, nos anciens combattants et à n'importe lequel d'entre nous. Et au fait, avant que vous ne postiez des messages d'insultes sur Facebook disant que j'utilise les problèmes de santé de mon fils à des fins politiques, oui, c'est vrai parce que je n'ai pas le choix. Ma famille a une couverture maladie, on n'a pas à s'inquiéter, mais les autres si. En dehors des gens du Congrès, personne ne veut de cette nouvelle réforme. Seulement 12% des Américains soutenaient le dernier projet de loi et celui-ci est encore pire. On veut un système de qualité et accessible, des dizaines de pays en ont ça.
Et donc Jimmy Kimmel s'est félicité hier soir en disant qu'il allait dans ses émissions enfin pouvoir revenir à des sujets plus légers comme par exemple les Kardashians plutôt que de faire des éditos sur le système de santé américain.
Allez Grégory, un autre échec pour Trump parce que visiblement ça marche en escadrille en ce moment. Ça s'est passé hier en Alabama, il y avait donc une primaire dans le camp républicain pour un siège de sénateur. Trump avait donné de sa personne en allant en Alabama soutenir son candidat et puis patatras, celui qui l'a emporté s'appelle Roy Moore et c'est un drôle de personnage, parlez-nous de lui un peu.
Ouais, alors Roy Moore, 70 ans, ancien chef de la Cour suprême d'Alabama, chrétien, évangéliste, ultra-conservateur. On le connaît bien ici aux États-Unis parce qu'il a été suspendu deux fois de ses fonctions. La première pour avoir fait ériger au siège de la Cour suprême un monument à la gloire des 10 commandements. La seconde fois, il y a un an, parce qu'il refuse de reconnaître le mariage homosexuel. Alors à l'occasion de cette primaire, les médias américains ont dressé le portrait de celui qui a battu le candidat défendu par Trump, le portrait de cet ultra-conservateur. Et CNN a retrouvé ce que Moore dit disait en 2005 justement de l'homosexualité.
Je pense que la réponse est oui ou non. Pensez-vous que l'homosexualité ou les pratiques homosexuelles doivent être considérées comme illégales ? Oui ou non ?
Oui, ça devrait être hors la loi.
Ça signifie que ce que font deux adultes consentants derrière la porte fermée de leur chambre à coucher, c'est illégal.
Ce n'est pas moral, c'est défendu par la Bible, c'est détestable. C'était contraire à la loi dans de nombreux États jusqu'à ce que la Cour suprême au Texas dise que ça ne l'était plus.
Voilà, et donc Moore a été désigné hier comme celui qui représenterait le Parti républicain en décembre dans cette élection partielle. Moore était soutenu par Steve Bannon, l'ex-éminence grise de Trump, et Trump a donc enregistré un nouvel échec.
Allez Grégory, je ne veux pas qu'on finisse sur une note pareille. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la Trump fatigue syndrome ?
Alors, c'est le film parodique qui amuse ici, notamment les correspondants étrangers à Washington. Ah. Fausse publicité réalisée par le comique Michael Hayne, dans laquelle on vous demande, vous souvenez-vous de l'époque où vous pouviez tranquillement vous promener sur la plage en famille sans vous soucier des tweets de Trump. Si vous aussi, vous préférez vous faire renverser par une voiture plutôt que d'endurer un nouveau message du président sur Twitter, c'est que vous êtes atteint par le Trump fatigue syndrome. Je vous rassure Fabienne, j'en suis pas encore tout à fait
non,
là.
Vous venez d'arriver, Twitter... Greg.
Oui, et puis Twitter maintenant autorise des messages de 280 caractères. Je vous garantis pas que je vais tenir longtemps.
Allez, bah écoutez, essayez de revenir quand même la semaine prochaine. Non, demain même, on vous retrouve demain dans Un jour dans le monde. Donc restez zen. Grégory Philippe, c'est Trump saison 2 tous les mercredis. À bientôt. On va d'ailleurs rester en Amérique, tiens.
France Inter, Un jour dans le monde.
On y reste que, ou presque, on va dire. Bonsoir Corinne
Pellissier. Bonsoir.
Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que l'Amérique s'est donné rendez-vous à Paris. En tout cas, les artistes américains se donnent rendez-vous à Paris en ce moment. Il y a Irving Penn, le photographe, qui est au Grand Palais. Il y a le Museum of Modern Art de New York, le MoMA, qui s'invite, qui est à la Fondation Vuitton en ce moment. Et puis, et c'est de ça dont vous allez nous parler, cette expo de pop art qui est au musée Mayol. Une grosse, grosse concentration. Donc, et peut-être bien que c'est ce dont parlait Greg à l'instant, c'est l'effet Trump.
En tout cas, en matière culturelle, le divorce est consommé déjà de longue date, hein, depuis l'époque en fait du candidat Trump, où de nombreux artistes s'étaient mobilisés pour porter les valeurs d'une Amérique libre, unie, non raciste, qui s'affranchit des frontières. On se souvient de Katy Perry, Madonna, Meryl Streep, Shakira, les Avengers aussi, qui étaient allés de leur petite vidéo, tout comme Robert De Niro.
He's a punk, he's a dog, he's a pig.
C'est un voyou, un chien, un cochon stupide, un artiste de merde qui pense que la société est un jeu et qui ne paie pas ses impôts. Colin Powell l'a très bien dit, c'est un désastre national, une honte pour ce pays. Il veut casser la gueule à tout le monde et moi, je lui casserai bien la gueule.
Well, I'd like to punch him in the face.
Voilà, deux petites phrases pour planter le décor.
On se souvient bien de ce moment-là.
L'état d'esprit du milieu vis-à-vis d'un président qui était aussi bien seul au moment de sa cérémonie d'investiture quand Barack Obama, lui, pouvait compter sur Beyoncé ou Aretha Franklin.
Alors, en attendant, on est presque plus d'un an après cette vidéo de Niro et aujourd'hui, le constat, évidemment, n'est pas meilleur.
Eh bien, au contraire, le monde de la culture, les artistes ont à cœur plus que jamais de véhiculer à l'étranger une autre image de l'Amérique. Quand Adam Weinberg, le directeur du Whitney Museum à New York, a monté son projet avec le musée Mayol autour du pop art, eh bien, il avait évidemment cette question-là à l'esprit.
Le monde traverse aujourd'hui une période difficile et il y a sans doute pas mal d'enseignements à tirer de la grande époque du pop art. Les artistes doivent apprendre à résister, c'est important. Ils doivent penser librement et conserver leur sens critique. Je suis content de constater qu'en dépit de ce que l'Amérique traverse aujourd'hui, et ce n'est pas rien, l'art continue d'abolir les frontières. C'est formidable de pouvoir continuer à montrer ce qui a fait notre grandeur tout en conservant ce regard critique.
Alors Corinne, cette expo donc autour du pop art, 60 pièces, pour la plupart ce sont des œuvres qu'on n'a jamais vues en France et qui disent des choses, évidemment c'est le principe du pop art, j'ai presque envie de dire, de la société américaine des années 50 et 60.
Alors quand on pense au pop art, on a en tête des images qui sont plutôt naïves, inspirées de la vie quotidienne, grand flot de couleurs très pop, rouge, jaune, bleu, la pub, la télé, les magazines, les personnages iconiques aussi, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, qui ont fait le tour du monde grâce notamment aux sérigraphies d'Andy Warhol, qui est évidemment en très bonne place dans cette expo. Il a un côté très divertissant, mais aussi très cynique. C'est ce que nous dit Adam Weinberg, le patron du Whitney Museum, qui a soigneusement sélectionné les œuvres qui sont montrées ici pour leur fort pouvoir contestataire.
Les gens pensent souvent que le pop art est une sorte de célébration des objets, mais c'est surtout une critique de notre société de consommation. On est en pleine période de la guerre du Vietnam, de la lutte pour les droits civiques, les manifestations étudiantes à Paris, à Mexico, à New York. Et même si la plupart de ces images dégagent quelque chose de positif et joyeux, elles contiennent aussi un aspect très sombre. Prenez Jasper Jones et ses cibles. N'oublions pas que le sens premier de l'objet, c'est pour tirer dessus, tuer quelqu'un. Donc même si tout cela a l'air amusant, le pop art au final est plus une façon de voir le monde que de le dessiner.
Ça s'appelle Icons That Matter, en expo de pop art au musée Mayol. C'est jusqu'au 21 janvier, avec les œuvres des plus grands, Roy Lichtenstein, Alex Katz, James Rosenquist. Des peintures, des installations, notamment le cendrier géant de Claes Odelberg, les nuits aussi de Tom Wesselman, pour plonger donc dans l'Amérique pop des années 60.
Au musée Mayol. Donc pour ceux qui sont de passage à Paris ou qui sont à Paris, on vous la conseille, Corinne Pellissier. Merci mille fois, Anthony Bélanger est là. À 18h55, l'heure de l'édito. Anthony, nous sommes en Australie ce soir, qui rattrape un peu son retard et vote pour ou contre le mariage gay.
Et l'on vote uniquement en glissant dans une sans bulletin dans une boîte aux lettres. Le vote s'étale sur deux petits mois. Le vote s'étale sur deux petits mois et a commencé le 12 septembre. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas un référendum, figurez-vous, mais une consultation postade. Ça signifie surtout que le résultat de ce drôle de vote ne sera pas contraignant pour le législateur qui ensuite devra modifier la loi. C'est compliqué à souhait, ça montre bien combien le sujet divise la classe politique australienne, et ce depuis au moins une dizaine d'années. L'actuel gouvernement espère qu'un oui franc et massif l'aidera à vaincre les réticences des parlementaires. C'est d'ailleurs le chemin que prend cette consultation postale. Donc, hein, selon un premier sondage, les trois quarts de ceux qui ont déjà voté auraient dit oui. Un chiffre presque beaucoup plus élevé même que les Australiens favorables au mariage gay. Ils sont environ 60 à 65%.
Alors, on a quand même un peu de mal à comprendre pourquoi l'Australie est si réticente.
Ben oui, c'est vrai.
Puisque c'est la dernière.
Oui, c'est vrai que l'image que renvoie l'Australie est plutôt très favorable à la communauté LGBTI. La Gay Pride de Sydney est devenue, même au fil des années, un must. Une des plus impressionnantes au monde et une vraie attraction touristique. Et pourtant, l'Australie est un pays occidental assez paradoxal. C'est une sorte d'exercate ou d'excroissance de l'Europe anglo-saxonne en Asie. Elle s'est toujours vécue comme une citadelle assiégée. On les comprendrait presque. Ils sont 24 petits millions, alors que leur voisin immédiat, l'Indonésie, flirte avec les 260 millions d'habitants sur un archipel d'îles étroites, seul contre tous les autres donc. Rapporté à la question gay, et ça signifie aussi une société très conservatrice, attentive à son identité religieuse, très à l'écoute de son hinterland, et donc très méfiante vis-à-vis de la nouveauté. C'est la pire des combinaisons pour le mariage gay.
Mais donc on dit que le plus dur est fait, que l'Australie aura bientôt son mariage pour tous, quoi ?
Oui, ça on peut le dire déjà d'ores et déjà. Et puis en Occident, il n'y aura bientôt plus que l'Italie et l'Europe de l'Est pour résister encore et toujours à l'envahisseur. J'emploie cette référence astérixienne à dessein. Pour une bonne part de l'humanité, effectivement, imposer les droits LGBT, c'est perçu comme de l'impérialisme culturel. Alors là, il faut expliquer. D'un certain point de vue, on peut même presque dire qu'ils n'ont pas tort. La différenciation clinique entre hétéro et homosexualité est une affaire occidentale qui s'est jouée chez nous à la fin du 19e siècle. De la même façon, l'apparition d'une identité homosexuelle est une affaire occidentale aussi. C'est entre l'Europe et les États-Unis, que l'on est passé de « je couche avec des hommes ou des femmes » à « je suis gay ou lesbienne ». Je suis aussi hétéro d'ailleurs, c'est un peu la même idée. Autrement dit, lorsqu'on enjoint à l'Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi à l'Asie tout entière d'adopter des lois protégeant ou dépénalisant les gays et les lesbiennes, ou d'adopter le mariage gay, ces pays y voient souvent un complot de l'Occident pour en finir avec leurs différences culturelles. Une anecdote, tenez.
Allez-y.
En 2013, Barack Obama visite le Sénégal et promeut les droits des gays et des lesbiennes. C'est son agenda. Le président Macky Sall lui répond que l'Afrique ne professait pas la polygamie en Occident. Pourquoi devrait-elle adopter, séance tenante, le mariage gay ?
Voilà, l'impression quand même générale est plus favorable que ce que vous nous expliquez.
Oui, bien sûr. Pour une raison bien simple d'ailleurs. Ces accusations de colonialisme culturel ne tiennent pas dans le monde qui vient. Un monde globalisé où l'éducation de masse a unifié les connaissances et où l'essentiel de l'humanité est citadine. Contre cela, les conservateurs ont déjà perdu la partie.
Anthony Bélanger, merci beaucoup. À très vite. Le 18-20 continue sur France Inter avec le téléphone sonne. On repeint le studio en rose ce soir. On parle cancer du sein et dépistage. 01 45 24 7000 et c'est juste après le journal de Sébastien Pavour.